Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 28 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Les titres pour commencer. Dans le journal de la Coupe du monde de football d'Eric Manirakiza, le Maroc punit la Belgique et peut rêver des huitièmes. L'Allemagne arrache le nul face à l'Espagne un partout et garde espoir de voir les huitièmes de finale, tandis que la Croatie est relancée après sa deuxième sortie contre le Canada. Au Cameroun, au moins 11 morts dans un éboulement de terrain à Yaoundé. En RDC, 40 rebelles burundais tués dans la province du Sud Kivu. Au Togo, premier meeting de l'opposition après 2 ans d'interdiction. Sao Tomé et Principe, 4 morts après une tentative de coup d'état déjouée. En Somalie, les forces de sécurité continuent d'assiéger l'hôtel attaqué par les Shebab. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakiza. Le Japon dans le groupe E des Espagnols et des Allemands et la Belgique dans le groupe F ont raté une belle occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale, battus respectivement par le Costa Rica 1-0 et le Maroc 2-0. N'est-ce pas, Eric Manirakiza?
Tout à fait, Idrissa. Les Marocains ont leur destin en main. À 4 jours d'affronter le Canada, ils totalisent 4 unités et peuvent logiquement rêver d'intégrer le top 16 du tournoi comme leur devancier du mondial de 1986. Notre consultant sportif, Amine Birouk, a suivi pour vous cette rencontre entre les Lions de l'Atlas et les Diables Rouges. Il revient sur les moments forts et brosse le portrait du véritable artisan de la victoire marocaine, Abdelhamid Sabiri.
Il s'appelle Abdelhamid Sabiri. Il porte en club les couleurs de la Sampdoria de Gênes et disputait accessoirement ce dimanche sa 4e sélection en équipe du Maroc. Ses débuts en septembre dernier avaient été couronnés par une réalisation à Barcelone devant le Chili en amical. 2 mois plus tard, son entrée en jeu à la 67e minute face à la Belgique a changé la physionomie de ce duel équilibré, jusque-là entre des Lions de l'Atlas volontaires et plus ambitieux que devant la Croatie, et des Diables Rouges belges dans le doute depuis leur dernière sortie contre le Canada. Sabiri, entré à la place de Bouffal, ne va avoir besoin que de 7 petites minutes pour donner l'avantage aux siens sur un coup franc parfaitement dosé dans le petit filet de Thibaut Courtois. Par la suite, les Marocains allaient tout cadenasser derrière et procéder par contre. L'un d'entre eux, dans les arrêts de jeu, permettait à Zakaria Boukhlel de Toulouse de doubler la mise et de permettre aux coéquipiers de Ziyech d'entrer dans l'histoire avec seulement la 3e victoire du Royaume chérifien en phase finale de Coupe du Monde. La première depuis 1998. Désormais, le Maroc a son destin en main. Un nul jeudi devant le Canada permettra à cette génération d'entrer dans l'histoire et de faire aussi bien que les pionniers de 1986 qui avaient à l'époque été les premiers Africains à franchir la phase d'un groupe du Mondial. Depuis Doha au Qatar, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Belle victoire donc pour le Maroc. Au micro d'Amine Birouk, l'international marocain Selim Amela exprime son sentiment.
Je pense qu'il y a pas meilleur sentiment qu'aujourd'hui. Voilà, on voulait gagner ce match. Moi, je voulais gagner en particulier parce que c'était un match particulier pour moi aujourd'hui. C'est moi qui est né en Belgique. Aujourd'hui, je voulais à tout prix gagner ce match. Ces choses qui ont été faites, voilà, ça fait très plaisir d'avoir démontré que je joue pour mon pays qui est le Maroc. Et voilà, on va continuer à se donner à fond et on verra par la suite. Et voilà, on est tous fiers. Je pense que le peuple marocain est fier aujourd'hui de ce qu'on a réalisé parce que ça faisait un moment que l'équipe du Maroc n'avait pas gagné en Coupe du Monde. Et voilà, cette victoire, on l'a dédiée à tout le peuple marocain qui nous supporte.
L'Allemagne a conservé ses chances de poursuivre son mondial en arrachant à l'Espagne un match nul, rebattant les cartes dans un groupe E où tout se jouera lors de la dernière journée. Les Allemands, avec un seul point, vont devoir impérativement battre le Costa Rica et probablement soigner leur différence de but pour s'assurer de jouer les huitièmes de finale. L'Espagne, pour sa part, n'est pas encore qualifiée, mais est en position favorable avec 4 points avant d'affronter le Japon jeudi dans le dernier match. Dans l'autre rencontre, la Croatie de Luka Modric, vice-championne du monde, a bel et bien lancé son mondial en dominant très facilement le Canada 4-1. Deuxième équipe éliminée après le Qatar. Autre fait à signaler Idrissa, c'est la présence de l'arbitrage vidéo qui n'a pas aidé notamment le Cameroun et le Ghana. C'est avec Jules Valentin Gouet et son coup de sifflet.
Avec l'avènement de la VAR, cette assistance vidéo apportée à l'arbitre de la rencontre par la technologie afin de prendre la décision juste dans les phases de jeu qui peut faire basculer un match sur un détail, on pensait s'être rapproché de l'équité sportive absolue, si indispensable par ces temps de nivellement de la hiérarchie des compétiteurs. L'application et le rodage réussi de ce procédé dans les compétitions en Europe, où l'on voit la VAR rappeler à la prudence, même à retardement, sur une suspicion de pénalty, de carton rouge ou d'hors-jeu, l'arbitre du jour sous le regard de tous, ont conforté le bien fondé de cette révolution utile. Mais, en ces débuts de Coupe du Monde, les Africains commencent à être frustrés par certaines absences étonnantes de la VAR aux conséquences déjà lourdes pour la survie de leur sélection. À l'exemple du contact suite à un tacle désespéré d'un défenseur suisse en pleine surface de réparation à la 34e minute sur l'occasion franche de Toko Ekambi lors du déterminant Cameroun-Suisse, mais aussi du pénalty généreux accordé au Portugal face au Ghana. Et pour ces deux cas, la VAR n'a pas jugé utile d'aider l'arbitre central. Avec les matchs décisifs qui commencent dans quelques heures, il est souhaitable que la chambre de la VAR, où s'est délocalisé de fait l'arbitrage des passages délicats, retrouve en toute équité son rôle de facilitateur. À bientôt.
À suivre ce lundi, le Cameroun contre la Serbie et le Brésil face à la Suisse dans le groupe G. Le Ghana affronte la Corée du Sud, tandis que le Portugal croise l'Uruguay dans le groupe H.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au moins 11 personnes ont péri dimanche dans un affaissement de terrain lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire de Yaoundé, a annoncé le gouverneur de la région à la radio publique CRTV, Mohamed Humfa.
Des corps recouverts de draps blancs ont été évacués par la police dans le quartier de Damaz. Des centaines de résidents affolés étaient à la recherche de proches, tandis que les secours tentaient de se frayer un chemin vers les lieux du drame. De nombreuses familles s'étaient installées sous de grandes tentes sur un terrain vague au sommet d'une colline quand le sol s'est affaissé sous une partie de l'assistance. C'était une réunion de gens qui voulaient pleurer des membres de leur famille qui sont partis avant eux, a déploré le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. Quatre grandes tentes blanches se dressaient toujours en soirée en haut de la colline, au bord d'une arête au-delà de laquelle le sol a disparu. Des secouristes y descendaient pour tenter de retrouver des personnes en contrebas, tandis que des gens pleuraient dans la foule près du cordon de sécurité. Aux environs du terrain vague, il y a des maisons cossues en bon état et des habitations précaires comme celles de bois et de tôle qui recouvrent les flancs des collines formant une partie de la capitale camerounaise de plus de 4 millions d'habitants.
Au Togo, quelques centaines de personnes ont assisté dimanche à Vogan, à environ 67 kilomètres au nord de Lomé, au premier meeting d'un important mouvement de l'opposition au Togo, après plus de 2 années d'interdiction pour diverses raisons sanitaires, Covid-19 ou sécuritaires. Le meeting a été organisé à l'appel de la DMK, la dynamique Monseigneur Podstro, qui regroupe 7 partis politiques de l'opposition et 6 organisations de la société civile. Aucun incident n'a été enregistré. Tour à tour, les responsables des partis politiques représentés au sein du mouvement ont fortement critiqué le pouvoir en place, dénonçant ce qu'ils ont appelé la mauvaise gouvernance, les mesures de restriction des manifestations et la forte flambée des prix. Ils exigent le retour des exilés et la libération d'une centaine de détenus politiques. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 40 rebelles burundais ont été tués dans une offensive conjointe des armées congolaises et burundaises dans le sud Kivu, a annoncé hier en porte-parole des FARDC, Nathalie Barge.
Les armées congolaises et burundaises ont mené une opération offensive à haute intensité contre les rebelles burundais des FNL, dirigés par le général autoproclamé Aloïs Nzabampema, a indiqué dans un communiqué le lieutenant Marc Longo Kiondwa. L'ennemi a subi une forte perte en hommes et matériel. 40 assaillants ont été neutralisés, a-t-il affirmé. Les deux armées ont délogé les FNL des quatre collines surplombant la localité de Nabombi, considéré comme poste de commandement de Nzabampema, a-t-il ajouté. Les FNL sont une branche résiduelle de l'ancienne rébellion de l'opposant burundais Agathon Rwasa. L'armée congolaise a appelé la population à collaborer avec les forces régulières et les jeunes à se désolidariser des groupes armés, selon le communiqué qui cite le général congolais Ramazani Fundi, commandant des opérations dans la partie sud de la province du Sud Kivu. Depuis le mois d'août, des militaires burundais chargés de lutter contre les groupes armés sont présents dans le Sud Kivu, dans le cadre de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. En juin, l'organisation a décidé de mettre sur pied cette force régionale, chargeant les armées kényanes et ougandaises de se déployer aux côtés des militaires congolais dans le Nord Kivu et l'Ituri, l'armée sud-soudanaise dans le Haut-Uele et les Burundais dans le Sud Kivu. Kinshasa, accusant le Rwanda de soutenir le M23, a refusé que Kigali participe à cette force.
À Sao Tomé-et-Principe, l'armée a annoncé hier que 4 personnes sont mortes dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une tentative de coup d'État manquée et que 2 enquêtes ont été ouvertes, la première concernant l'attaque d'une caserne militaire et l'autre pour meurtre et torture de 4 auteurs présumés. De Gabi Dorsil.
Selon le chef d'état-major des forces armées cité par l'agence de presse officielle, 4 personnes et 12 soldats de l'armée et du bataillon Buffalo ont été capturés avant que 3 d'entre eux ne décèdent des suites de leurs blessures. Une des victimes est Arlesio Costa, un ancien mercenaire saint-toméen du groupe sud-africain Bataillon Buffalo, démantelé en 1993 par Pretoria. L'arrestation de M. Costa a été annoncée par les autorités vendredi et il est décédé après avoir sauté le véhicule selon l'armée. En février 2009, Arlesio Costa, alors chef d'un petit parti d'opposition, avait déjà été arrêté et accusé d'être le meneur d'une tentative déjouée de coup d'État 12 jours auparavant. 4 hommes, dont l'ex numéro 1 du Parlement, Delphine Neves, ont été arrêtés vendredi après avoir été dénoncés par un commando de 4 hommes capturés, avait affirmé le Premier ministre Patrice Trovoada. À l'issue d'un Conseil des ministres hier, le gouvernement a condamné la tentative de putsch, précisant qu'une équipe internationale avec médecins légistes doit appuyer les enquêteurs. Le président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Gilberto da Piedade Verissimo, et le chef du bureau de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, ont effectué une mission d'information ce week-end dans l'archipel.
En Somalie, les forces de sécurité somaliennes assiégeaient toujours ce matin l'hôtel Villa Rose dans le centre sécurisé de la capitale Mogadiscio, où des militants islamistes radicaux Shebab étaient retranchés depuis la veille. Des coups de feu sporadiques et des explosions se faisaient encore entendre au lever du soleil aux alentours de cet hôtel très prisé des parlementaires et hauts fonctionnaires et situé près des bureaux du président Hassan Sheikh Mohamud. Selon le porte-parole de la police nationale, les forces de sécurité sont engagées pour éliminer les assaillants et de nombreux civils et des responsables politiques ont été secourus et évacués dimanche soir. La police a arrêté 2 personnes lundi à Shanghai, là où des manifestants s'étaient rassemblés durant le week-end, comme dans plusieurs autres grandes villes de Chine, pour protester contre les restrictions sanitaires liées au Covid et réclamer plus de liberté. Certains ont scandé des slogans contre le pouvoir en place, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique de zéro Covid, une politique draconienne pratiquée depuis près de 3 ans. Le groupe des médias britanniques BBC a indiqué dimanche qu'un de ses journalistes en Chine, Ed Lawrence, qui couvrait à Shanghai ces manifestations en Chine, a été arrêté et frappé par la police. La BBC dit n'avoir eu aucune explication ou excuse officielle des autorités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. RDC, le groupe rebelle M23 a ignoré les résolutions du dernier mini-sommet à Luanda des chefs d'État d'Afrique de l'Est pour trouver une solution à la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est du Congo. Aucun cessez-le-feu n'a été observé selon notre correspondant sur place et les rebelles maintiennent toujours leur position malgré les résolutions de Luanda. Le M23 dit qu'il n'a pas l'intention de reculer. Le point avec notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
L'ultimatum donné aux rebelles pour observer un cessez-le-feu et se retirer de toutes les positions qu'ils ont conquises a expiré le vendredi à 18h, heure locale. Mais les rebelles disent ne pas vouloir céder à la pression de la communauté est-africaine pour ne pas subir le même sort de 2012 lorsqu'ils se sont retirés de la ville de Goma, a déclaré le major Willy Ngoma, porte-parole militaire de cette rébellion.
Rappelez-vous qu'en 2012, lorsque nous avons pris la ville de Goma, on nous a demandé de nous retirer et nous l'avons fait. Mais ensuite, les forces armées de la RDC nous ont attaqués et nous ont repoussés en Ouganda. Maintenant, nous vivons avec toutes nos familles dans les zones conquises et on nous demande de nous retirer. Où veulent-ils que nous allions avec nos familles ?
Dans un communiqué signé le même vendredi, le M23 a rappelé que le cessez-le-feu unilatéral qu'il avait lancé en avril était toujours en vigueur et qu'il ne répondait pas aux offensives lancées contre eux par l'armée congolaise. Major Willy Ngoma.
Nous voulons les dialogues car depuis avril, nous observons un cessez-le-feu signé unilatéralement. C'est l'armée congolaise qui vient nous attaquer et nous nous défendons. Ce que les gens doivent savoir, c'est que nous ne voulons pas la guerre et nous sommes prêts au dialogue. Mais le gouvernement ne veut pas les dialogues. Il nous demande de nous retirer avec nos familles, mais pour aller où, pour faire quoi et pour quelles raisons ?
Selon l'observateur congolais Michael Kamana, l'attitude actuelle du M23 était prévisible et sans l'usage de la force, ils continueront à conquérir d'autres agglomérations en province.
C'est utopique de penser qu'un groupe armé qui s'organise, qui arrive à prendre la moitié du territoire de Rutshuru et qui essaye d'avancer vers Masisi, essaye d'encercler la ville de Goma, c'est vraiment irréaliste de penser que par des simples mots, l'on pourra arrêter la marche vers les grandes agglomérations de la province.
Maintenant, il reste à savoir si la force militaire régionale de l'EAC sera en mesure de passer à l'offensive comme prévu par le mini-sommet des chefs d'État à Luanda si les rebelles restent obstinés. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Cameroun, les violences conjugales et domestiques faites aux femmes sont en augmentation. C'est ce que révèle un rapport publié vendredi dernier par Nouveaux Droits de l'Homme, une ONG locale. La publication de ce rapport cadre avec la campagne de 16 jours lancée par les pouvoirs publics contre les violences faites aux femmes en prélude à la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes qui est observée chaque 10 décembre. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Il a commencé à me secouer violemment. Et la scène ne se passe pas dans un cadre secret, c'est dans une rue. Il y a des gens qui sont assis, mais ils sont passifs.
Déclaire Ngolibok est auteur d'un ouvrage intitulé « Violences sexistes et silencieuses, propos et comportements sexistes ». Le livre paru en 2019 raconte les circonstances d'une violente agression dont elle a été victime en 2017 dans son quartier à Yaoundé.
Et le jeune homme commence à menacer pour dire « je vais vous violer et personne ne pourra me faire quoi que ce soit ».
À travers ces douloureuses expériences, Tekla Golibok a vécu ce qu'endurent les femmes victimes de violences au Cameroun.
Dans les hôpitaux, si pour se faire soigner, pour être victime de violences, il faut débourser de l'argent dans les hôpitaux, ça pose des problèmes. On a dans des quartiers de l'échefferie, mais souvent, dans ces cas de violence, chefferies sont muettes et ne peuvent apporter aucun recours à la population. Moi, j'ai été dans une zone comme ça, rien où les enquêteurs n'étaient pas préparés. Ils ont ri du fait que je viens poser, porter plainte pour une action qu'ils ont trouvée très banale. On comprend pourquoi une femme victime de violence, au début, elle est enthousiaste pour dire elle va se rendre justice, elle va vers la justice. Et après, elle se refroidit, elle se renferme. Parce qu'il y a tout ce lot-là qui te suit au quotidien.
D'après le rapport de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme, sur les violences conjugales et domestiques faites aux femmes, 130 femmes sont mortes au Cameroun sous les coups de leurs conjoints entre 2019 et 2022. Plus de 20% des femmes, au cours de la même période, auraient eu leur premier rapport sexuel sans leur consentement. Cyril Roland Béchon, directrice exécutive de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme.
Dans ce rapport, beaucoup ont été tués sur le coup de leurs époux et pour lesquels les affaires piétinent. On a même soulevé la question du féminicide. Est-ce qu'il n'est pas temps au Cameroun de poser la question du féminicide comme dans d'autres pays aujourd'hui? Parce que c'est les femmes qui sont tuées sous les coups, soit de leurs compagnons, soit de leurs partenaires, soit de leurs époux, soit de leurs frères.
L'expert camerounais en genre, Lekene Ndongfak, affirme que les femmes déplacées internes de la crise dans les deux régions anglophones sont aussi victimes au quotidien de violences à cause de leur dépendance économique. Un responsable de l'administration sur les questions de genre et Henri l'anonymat soutient que le cadre juridique camerounais de répression des violences faites aux femmes comporte encore des limites.
Lorsqu'on voit des infractions, ça reste générique. On va vous parler des coups et blessures, des blessures graves, des blessures légères. Mais il n'y a pas une spécificité par rapport même aux préoccupations qui relèvent du domaine intime. Par exemple, quand on parle du viol, les éléments même constitutifs du viol restent très génériques. Parler même du viol conjugal, ça devient compliqué. S'il faudrait mettre vraiment l'accent sur ces questions spécifiques, il faudrait peut-être prendre des notions un peu plus spécifiques.
Lors du lancement le week-end dernier de la campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Ondoa, a annoncé que le nouveau code de la famille en cours d'élaboration va renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, la municipalité de Moundou, dans le sud du pays, a installé un centre d'enregistrement des naissances au sein de la maternité de l'hôpital provincial. Ce centre permet aux paysans des villages environnants et aux nomades de faire établir les documents administratifs de leurs enfants sans trop de tracasseries. Notre correspondant André Kotmajingar a visité ce centre. Son reportage.
Installé le 5 octobre au sein du service de la maternité du dit hôpital provincial, le centre d'état civil pour l'enregistrement des naissances a rendu énormément en service à la population de la province du Logone occidental. Valérie Ndolembaï est un paysan venu de Mbaynamar, une localité située à 98 km de Moundou avec sa femme, qui a finalement accouché de jumeaux par césarienne. Valérie s'est dit comblée non seulement d'avoir des jumeaux dans sa famille, mais aussi d'avoir eu cette possibilité d'obtenir leur acte de naissance dès leur premier cri.
Je suis content parce que c'est mon devoir, même si l'acte de naissance ici je ne trouve pas, c'est que je dois chercher à aller à la mairie, c'est une distance, et comme une opportunité est donnée, que je dois avoir l'acte de naissance sur place, c'est déjà une très bonne chose.
Non loin de Valérie, dans les locaux de la maternité, deux femmes âgées d'environ 40 ans portent chacune un bébé dans les bras. Elles sont visiblement émues d'être grand-mères et expliquent au micro de VOA Afrique l'importance de l'acte de naissance.
C'est bon, non? C'est pour savoir là où tu es né, ton âge. Normalement, là.
Quand vous êtes née, là, vous avez l'acte de naissance?
Je n'ai même pas mon acte de naissance. Je me suis débrouillée comme ça seulement pour donner mon acte de naissance. Aujourd'hui, pour mes caca, là, c'est sorti directement, là, c'est bon.
La responsable du centre d'enregistrement des naissances, Marceline Bayamtar, parle du mécanisme de déclaration de naissance.
L'enfant est né aujourd'hui, les parents sont prêts, il vient déclarer. Et on a le bulletin de déclaration qui est ici. On laisse un avec les sages-femmes, c'est la majeure qui enregistre là-bas. On nous nous amène un bulletin de déclaration. C'est en ce moment que nous, on enregistre le nouveau-né pour lui faire un extrait d'acte de naissance. Depuis le 5 octobre, on a eu enregistré 104 bulletins de déclaration, 55 garçons et 49 filles.
Tout en saluant cette initiative, le surveillant général de l'hôpital provincial de Mundu, Byron Dundo, plaide pour que de tels centres soient installés dans toutes les provinces pour permettre aux nouveau-nés d'être enrôlés.
Il y a des enfants plus âgés, les parents attendent jusqu'à ce quand ils ont l'âge d'aller à l'école qu'ils cherchent à faire leur état civil. Or là, c'est pratiquement dans le bâtiment de la maternité, donc ça permet d'enregistrer au fur et à mesure les enfants. Malheureusement, c'est pas dans toutes les régions encore, mais sinon ça peut aider à avoir déjà une idée même exacte de la population tchadienne. C'est une très bonne chose.
Dans certaines communautés, il faut attendre 8 jours après la naissance d'un enfant pour lui donner un nom. Cette situation ne complique-t-elle pas cette initiative? Le délégué sanitaire provincial du Logone Occidental, Dr Ongram Kouleta II, répond.
Effectivement, ça c'est une question qui est revenue. Donc je pense que cela a été pris en compte. Et même si on n'arrive pas à donner le nom de l'enfant, je pense qu'il y a des possibilités de rattraper cet enfant pour faire la régularisation. Également, des sensibilisations sont faites dans ce sens. Il faut trouver des stratégies pour prendre un peu de l'avance. Ça, c'est quelque chose qui est en réflexion.
Les agents formés à cet effet travaillent en commun accord avec les sages-femmes et ceux de la municipalité de la ville de Mundu. L'UNICEF appuie cette initiative dans le cadre de la protection de l'enfance. André Kodomadjingar, de retour de Mundu, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
À Nouakchott, la 6e édition de Mauritanide, le Forum Nord-Ouest africain pour les acteurs mondiaux des mines, du pétrole et du gaz et des renouvelables, s'est inscrit dans la logique de la COP27 qui promeut les énergies propres à l'horizon 2050. Une dynamique profitable à la Mauritanie en tant que futur pays exportateur d'énergie à faible teneur en carbone, à savoir le gaz naturel liquéfié. De Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop.
L'énergie propre a été au cœur des débats lors de la 6e édition du Forum Mauritanide. Ainsi, le directeur général de BP Petroleum, Bernard Lounay, rappelle déjà avoir évoqué la question avec le président mauritanien Mohamed Oudoucher El Razouani en marge de la COP27.
Au début de ce mois, des collègues et moi avons rencontré le président Ghazouani et son ministre Salé en Égypte. Lors de cette réunion, il a approuvé le plan pour BP de rechercher des opportunités de production d'hydrogène vert en Mauritanie. Et BP est déjà en action pour développer l'hydrogène avec la Mauritanie et des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, le Moyen-Orient, les États-Unis et l'Australie.
Dans cette dynamique de transition vers les énergies propres, le gaz naturel occupe une bonne place en raison de sa faible teneur en carbone. La demande pourrait même connaître une forte hausse d'ici 2035. Une bonne occasion donc pour la Mauritanie, futur pays exportateur de gaz naturel liquéfié, souligne son ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdesalam Ouldou Mohamed Saleh.
L'économie mondiale à faible teneur en carbone offre à d'autres pays des opportunités de développement sans précédent pour accélérer le rythme de la croissance, créer un véritable tissu industriel et réduire le chômage.
Et le ministre d'ajouter d'autres opportunités offertes par le gaz.
L'économie à faible teneur en carbone est aussi une économie suivie d'une consommation intensive de minerais, notamment stratégiques. Dans ce domaine, notre pays dispose d'importantes capacités minières, notamment de fer, qui peuvent être industriellement converties et valorisées par l'exploitation du gaz et des autres énergies propres.
Le forum qui a duré 2 jours a réuni environ 2000 participants et une cinquantaine de conférenciers selon les organisateurs. Le forum a été aussi un rendez-vous pour les grandes entreprises mauritaniennes comme la CINIM, Société nationale industrielle et minière de Mauritanie, de nouer de nouveaux partenariats avec les investisseurs étrangers. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Lionel Rouananiragaïma, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.